Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi, c'est la dernière partie de l'émission sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h et aujourd'hui, il y a Rémi Barré, il y a Pierre Rondeau, il y a Juliette Briens et il y a Fred Hermel. On va dans un instant débattre avec vous autour de l'Union Européenne qui va surtaxer les véhicules électriques chinois. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Dites-nous tout, on vous attend. RMC Conso, ce sera à 14h30. On va parler des pénuries de produits dans les rayons des supermarchés. On va vous dire ce qui vous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis il y aura les immanquables. Rémi, les infos qui ne fallait pas rater aujourd'hui.
On parlera notamment de cette nouvelle position prise par un responsable LR, François Bellamy, qui était le candidat à la tête de liste aux européennes, et qui dit qu'en cas de second tour pour les législatives, en cas d'un duel entre LFI, Front de gauche et RN, son choix était fait, il ferait barrage à l'extrême gauche. Donc, il voterait RN.
Mais écoutez, on en parlera dans les immanquables, et puis on vous donne des formidables places de foot pour l'Euro, Rémi.
Oui, l'Euro qui débute là, maintenant, allez, on va dire dans quelques heures, l'Euro 2024 dont nous vous envoyons en Allemagne tous les jours pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. En l'occurrence, nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Leipzig, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant, le choc entre la France et les Pays-Bas. Là, vous aurez deux places pour suivre ce match, ce sera le 21 juin prochain. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire top chrono en envoyant euro par SMS au 7-32-16. Euro par SMS au 7-32-16. Vos places pour France-Pays-Bas se gagnent uniquement sur RMC.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la taxe du jour et c'est celle de l'Union Européenne sur les véhicules électriques chinois, plus 25% de droits de douane par rapport aux voitures européennes. Rémi, pourquoi cette taxe et est-ce que ça va nuire aux consommateurs?
Ah, forcément oui, ça va nuire aux consommateurs français en termes de prix. Cette décision, elle fait suite à une enquête ouverte en octobre dernier par l'Union Européenne sur les subventions dont bénéficieraient les constructeurs automobiles chinois de la part de leur gouvernement. Des subventions déloyal au regard du droit du commerce international. Conséquence, en pleine électrification de leur gamme, les constructeurs automobiles européens sont confrontés à l'afflux de véhicules électriques chinois moins coûteux à produire puisqu'ils toucheraient des subventions. D'après la Commission européenne, la différence de prix moyenne entre les voitures électriques fabriquées en Chine et leurs équivalents fabriqués dans l'Union européenne est de 20%. La même commission.
Énorme, ça fait 2000 euros sur 10 000.
Ouais, et la même commission estime que les marques chinoises telles que BYD, NIO ou encore XPeng ont déjà conquis 8% du marché européen des voitures électriques, contre seulement 4% en 2021 et pourraient atteindre 15% du marché en 2025 si la tendance se poursuit comme ça. Solution choisie par l'Europe donc, taxée. Sauf que ce ne sera pas sans conséquence. Dès hier, le ministre chinois des Affaires étrangères a prévenu qu'il prendrait des mesures pour défendre fermement les intérêts chinois en taxant, elle aussi, le vin, les produits laitiers, le porc, les voitures de gros cylindrés produites en Europe et exportées vers la Chine pour en faire les frais.
Ils vont être contents, nos agriculteurs. Ça va leur faire plaisir, en fait, de payer le prix de cette taxe douanière. Alors, surtaxer les véhicules électriques chinois, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Pierre Rondeau?
Mais je pense que malheureusement, ils ont pris le problème à l'envers et ils ont pas... ça a été dit par Rémi et très bien dit, c'est parce que le gouvernement chinois subventionne les entrepreneurs chinois et les sociétés chinoises que par retour de bâton, l'Europe va taxer ses importations. Mais oui, pour les taxer, soit, parce qu'il y a concurrence déloyale, mais dans ces cas-là, est-ce que les entreprises européennes qui produisent des voitures électriques sont subventionnées, sont aidées, ou alors obtiennent une baisse de leur TVA. Parce qu'on peut très bien taxer les voitures chinoises pour lutter contre la concurrence déloyale. À terme, c'est directement le consommateur qui va en pâtir. Et je rappelle qu'en 2035, on est censé avoir l'interdiction des voitures thermiques pour les voitures électriques. Pas à circulation. La vente de voitures neuves. Donc voilà. On peut les taxer, je suis le premier à dire qu'il faut un patriotisme européen d'un point de vue économique, il faut taxer, il faut mettre des barrières douanières, tarifaires, non tarifaires, oui, mais avec une contrepartie. Soutenir les sociétés européenne contraindre les sociétés non européennes. Oui, mais là, si simplement on va taxer les voitures chinoises, oui, sans détaxer, sans subventionner les allemandes ou les françaises, qui vont continuer à être vendues à plus de 20 000, 30 000, 40 000 euros, forcément le consommateur, soit il va rester sur les chinoises, soit il va en pâtir sur son pouvoir d'achat. Oui. Donc il faut qu'il y ait je dirais, une logique qui me paraît... En le disant, je me dis, mais ça me paraît tellement évident. Non, mais... Vous taxez les Chinois et vous subventionnez les Européens.
Mais le problème aussi, excuse-moi, hein, y a plein de voitures Peugeot Citroën, Stellantis qui sont fabriquées en Chine. Donc celles-là, on les taxe pas. Donc il y a quand même un truc qui est assez étrange. Et encore une fois, les voitures BYD, donc BYD, comme vous dites, c'est a priori, je vois pas pourquoi elles seraient plus mauvaises que les autres. Donc
mais elles sont achetées, vendues en Europe et par les Français.
Ça doit être des bonnes voitures. Et en fait, tu empêches aujourd'hui quelqu'un qui a un pouvoir d'achat moindre de rouler en électrique.
Il n'y a pas de contrepartie.
Donc c'est quand même un peu dommage. C'est-à-dire que en fait, tu vas l'autoriser à rouler avec une grosse voiture allemande qui pollue bien, électrique, un gros SUV, ça, il y a pas de problème. Mais en revanche, une petite voiture chinoise électrique, ça va pas
dégressive au poids de la voiture et à son bilan carbone, mais en tout cas européenne, subvention des produits européens, une protection des emplois des travailleurs des usines européennes.
Fred Hermel,
tout ce qui permet de lutter contre cette hérésie économique, écologique et sociale qu'est la voiture électrique me paraît bien. Enfin, les Américains...
Les petites voitures, excuse-moi, c'est pas une hérésie,
bien que les petites. Les Américains se gênent pas pour faire du protectionnisme au niveau de leur continent, parce que les États-Unis, c'est quasiment un continent. En Europe, enfin, parce que l'Europe, c'est quand même un peu open bar à tout le monde. Hein. Donc moi, je trouve, une fois, c'est une décision plutôt cohérente de la part de l'Union européenne.
Pour nos céréaliers, essayons d'aller vendre des céréales à la Chine, tiens, tu verras.
Oui, mais enfin, d'ici là, l'Europe avait déjà commencé à ouvrir les portes.
C'est demain.
L'Europe n'essaye que... ne fait que essayer de corriger la folie qui a été de prévoir l'interdiction des voitures thermiques en 2035, qui a provoqué justement une avalanche de voitures chinoises, parce qu'eux étaient beaucoup plus près que nous, les constructeurs français et européens, pour ce genre de véhicules. Donc en fait, ça, ils essaient de rattraper une énorme bêtise qu'ils ont fait il y a quelques années. Moi, franchement, je trouve qu'on a encore en France, avec Stellantis, avec Renault, on a encore des marques importantes qui créent des emplois en France.
Qui produisent en Chine.
Oui, mais enfin, mais excuse-moi, on fait encore. Excuse-moi, moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Douai, c'est pas en Chine, hein. On fabrique beaucoup de voitures Renault là-bas, donc
on fabrique aussi les Toyota à Valenciennes, hein.
Oui, une Toyota, mais avec quoi?
C'est japonais, hein.
C'est japonais, mais quoi? Les réglementations françaises, le droit du travail français. Les normes environnementales françaises. Donc moi ça me gêne pas qu'un des constructeurs vienne.
D'ailleurs les taxes dont on parle visent les voitures qui sont produites en dehors de l'Europe.
Voilà, hein. Mais bien sûr.
Si l'usine.
Bah alors tu taxes les Stellantis qui sont produites en Chine.
De toute façon ça va être le cas.
Parce que à partir du moment
où une voiture électrique est fabriquée en dehors de l'Europe, elle n'aura pas le droit aux mêmes avantages que ont les voitures produites en Europe.
Moi, tout ce qui est fabriqué selon les codes européens, surtout français au niveau notamment de l'environnement et surtout du code du travail, avec un salaire minimum, avec des conditions de travail à la française, moi, ça me paraît bien.
Juliette Briens, est-ce que c'est une hérésie, cette taxe, ou est-ce qu'au contraire, c'est bien qu'on fasse un petit peu de protectionnisme?
Je ne sais pas, en fait, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je croyais qu'on devait passer au tout électrique en 2035. Oui. Donc, pour ça, on fait quoi? On subventionne les automobiles en France, on subventionne les gens pour les consommer. Et en Chine, ils subventionnent les entreprises pour les produire. Donc, forcément, il y a un problème quelque part. Nous, on subventionne pour consommer, ils subventionnent pour produire. Si on met cette taxe, on passera pas au tout électrique en 2035. Pourquoi? Parce que le secteur de la création de batteries, c'est en Chine. Voilà, c'est comme ça. Ils ont pris une avance monumentale. En Europe, on est largué. De toute façon, on n'a pas les métaux, on n'a pas les matières premières, on n'a rien. Donc, je veux bien ces histoires de taxes, etc. Mais il n'y aura pas de tout électrique en 2035. C'est tout. Juste, regardons les réalités en face. Moi, tout ça me fait bien rire. Voilà, c'est tout. C'est extrêmement logique, en fait. Vous voulez du tout électrique en 2035, ce sera des voitures chinoises.
C'est pas le
vous voulez
électrique.
Pas de voitures chinoises, il n'y aura pas de tout électrique en 2035.
Tu peux acheter un diesel en 2034 et rouler avec pendant 20 ans. Oui. C'est l'interdiction des ventes de voitures. Mais tu pourras circuler avec
les primes. Mais avec les primes, les gens se jettent sur les primes pour essayer de passer à l'électrique.
Ils se jettent, ils se jettent. Demande en 2034 vers des diesels.
Mais on ne peut pas les produire. Donc non, mais faut savoir
thermique. Je parle des thermiques. Ne... Ah, c'est pas oui. le tout électrique en 2035. C'est uniquement les voitures neuves, la mise en vente de voitures neuves.
On ne pourra plus produire de voitures.
On pourra continuer à rouler en thermique.
Nous n'avons pas les moyens de réaliser nos projets sans les voitures chinoises. On est largués. On n'a pas de matériel. On a. C'est, en fait, à un moment donné, faut regarder la réalité d'en face dans cette histoire. Et je pense vraiment qu'ils ne le font pas. Et encore une fois, le gouvernement sait très bien qu'ils se sont trompés avec cette histoire et n'ont toujours pas le courage de l'admettre.
Enfin, alors là, c'est pas le gouvernement, c'est l'Europe, hein. C'est on peut pas tout leur mettre sur
La Commission européenne et Angela Merkel,
ils ont pas beaucoup râlé.
Ursula von der Leyen, ouais. N'était pas la candidate d'Emmanuel Macron. Donc c'est pas le gouvernement français qui a décidé, qui a pris cette décision.
Ils persistent dans pas tout leur mettre sur le dos.
Non, mais la France persiste dans le tout électrique en 2030.
Bah oui, mais elle a pas trop de choix. Oui,
voilà.
Rémi, on a des messages sur la PRMC.
Oui, ce message qui va dans le même sens que ce que tu viens de dire, Juliette, ce message de Christophe qui nous dit on va obliger les Français à acheter des voitures électriques plus chères, mais bonne idée, parce que les ventes de voitures électriques vont baisser, ça va reculer la décision d'interdire la vente de voitures thermiques d'ici 2035.
On a Jean-Luc qui nous appelle de Dijon et qui est dirigeant de PME. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Estelle.
Jean-Luc, vous le roulez à l'électrique ou au thermique ?
Je roule au thermique.
D'accord. Et Jean-Luc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle finalement de taxer ces véhicules électriques chinois ?
Alors moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle.
D'accord.
Pour deux bonnes raisons. La première, elles sont fabriquées dans des usines qui polluent. Et deuxièmement, on les fait venir par des cargos qui polluent. Alors je vois pas l'intérêt de faire venir ces véhicules étant donné l'empreinte écologique que ça représente.
Oui, mais elles sont moins chères et aujourd'hui, on n'a pas...
Aujourd'hui, il faut taxer. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'est qu'il faut subventionner les entreprises européennes. Alors là, c'est pareil, c'est une très, très mauvaise idée.
Moi, j'ai pas dit ça.
Quand on voit les résultats de Stellantis, on va pas encore en plus leur donner de l'argent. Faut arrêter, quoi. Oui.
Ah ben, on leur donne de l'argent en achetant leur voiture, quand même, Jean-Luc. Mais vous vous dites pas quand même que l'idéal, ce serait que tous les Français puissent accéder à l'électrique et donc, dans ces cas-là, puissent accéder à des voitures moins chères. Et on se doute bien que les voitures chinoises, ben, elles sont moins chères que les voitures allemandes.
Peut-être, mais on ne peut pas accepter d'avoir une action écologique. Pourquoi acheter de l'électrique pour l'écologie ? Donc on ne peut pas accepter une telle situation à partir du moment où les données ne sont pas les mêmes. Les voitures sont subventionnées, des usines polluantes et un transport polluant. Ça fait une empreinte carbone catastrophique. Donc faut arrêter. Donner de l'argent à ceux qui en ont besoin pour acheter ces véhicules électriques, ça je suis d'accord. Mais alors en donner aux Chinois et en donner aux entreprises même européennes, ça non plus, parce que au jour d'aujourd'hui ils font des résultats, on va pas encore en plus les aider, quoi. Faut arrêter. Donc donner l'argent à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui veulent acheter un véhicule électrique pas cher, voilà.
Merci beaucoup Jean-Luc de nous avoir donné votre point de vue. Et notre invité sur ce débat, eh bien, c'est Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on s'est dit ce matin, en voyant cette info, on va appeler Pierre pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette taxation des véhicules électriques chinois. C'est bien ou c'est pas bien Pierre ?
Bah, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je suis toujours assez stupéfait qu'on vienne surtaxer un produit importé parce qu'il a du succès et qu'il permettrait de baisser le coût. En fait, il y a deux visions. Soit l'État part du principe qu'il faut basculer vers l'électrique et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison d'aller empêcher un marché de se mettre en place. Soit on part du principe que l'électrique n'est pas la solution absolue, c'est mon point de conviction profond, et on laisse le marché s'équilibrer. Le problème, vous savez Estelle, le problème c'est pas la fiscalité qu'on va apposer en plus sur des véhicules qui sont déjà très fortement fiscalisés. La vraie question c'est de savoir si on continue avec ce système du malus écologique sur les véhicules thermiques, qui est en train de plomber l'économie nationale, les constructeurs français ou groupes français, ainsi que les autres constructeurs européens. Parce qu'en fait, quand vous achetez un véhicule thermique actuellement, eh bien, pour peu que vous ayez une voiture juste familiale, qui correspond aux besoins juste des familles de peut-être 70% des familles françaises, eh bien, vous êtes complètement malussé, écrasé par le poids de la fiscalité. Et donc là, ça perd sa cohérence. Vous savez, il faut jamais chercher à réguler un prix. Un prix, c'est le marché qui va le réguler. C'est-à-dire qu'on a une feuille de route. Si des constructeurs souhaitent faire de l'électrique, eh bien, laissons-les faire. Si les constructeurs font du thermique et que ça plaît aux automobilistes, laissons-les acheter. Mais arrêtons de surtaxer à coup de matraquage de taxes des véhicules thermiques qui répondent aux besoins d'une grande majorité des Français.
Mais vous trouvez pas, Pierre, quand même que c'était presque, je vais pas dire une aubaine d'avoir des véhicules chinois, mais une aubaine en tout cas de pouvoir rouler en électrique de manière moins coûteuse, parce que encore une fois, ces véhicules chinois étaient moins chers.
Mais ils le sont moins chers, bien sûr qu'ils le sont, et ils le restent toujours.
Plus. Bah non, avec 25% de plus de droits de douane, pas sûr.
Oui, ah bah c'est, ça c'est le problème. Mais en coût de production, je veux dire, ils coûteront toujours moins cher. Parce que la Chine a le quasi-monopole de la batterie. Le quasi-monopole des matières premières qui permettent la confection de la batterie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train de surtaxer un produit, on fait du protectionnisme européen, voire du protectionnisme français, et puis un jour, il faudra pas se voiler la face. Les Asiatiques diront, vous êtes gentils les gars, mais vous nous matraquez à coups de taxes, nous on va vous vendre plus cher, et on va vendre et on va acheter plus cher d'autres produits. Le protectionnisme n'a pas de sens en termes environnementaux, en termes économiques. Si vous voulez aller vers du protectionnisme, vous cassez l'intérêt économique. L'intérêt économique, c'est de laisser le marché réguler un prix. Mmh. Le prix ne peut pas être régulé par l'État. Il faut que l'État arrête un petit peu de vouloir tout réguler dans la vie des gens. Je rappelle que la voiture électrique la moins chère aujourd'hui, c'est un véhicule, bon certes c'est la Dacia Spring, c'est un véhicule qui est 100% chinois. Alors ça peut poser des questions éthiques pour beaucoup de Français qui vont dire nous...
Comment ça la Dacia c'est chinois, c'est Renault la Dacia?
Alors la Dacia Spring, elle est intégralement fabriquée, assemblée en Chine, à 100%.
Oui, oui, voilà. Enfin, c'est quand même une marque française, vous voyez, ça...
Bah, ouais, mais c'est une marque
française. Si vous achetez une Dacia, c'est quand même mieux pour l'économie française qu'une BYD.
Ouais, mais quand vous achetez une Dacia Spring, vous achetez chinois, faut le savoir, à 100%. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en ai marre de ce marché qui est sans cesse régulé par un État qui souhaite à tout prix pousser des objets que l'on est incapable de vendre moins cher. En fait, la réalité, c'est que si on n'est pas capable de faire baisser les prix à l'échelle européenne, à l'échelle française, eh bien, c'est peut-être le business model qui est mauvais, tout simplement. Peut-être travaillons nos points forts pour travailler sur des véhicules plus écolo, plus sympa, avec des moteurs hybrides, au sens aussi nouvelles technologies qui concernent, je sais pas, moi on pense à l'éthanol, au GPL. Si on est fort sur ce genre de technologie, allons sur ce genre de technologie. N'allons pas sur une technologie où les Asiatiques sont déjà présents depuis plus de, je sais pas combien de dizaines d'années, c'est où ils ont un avantage sur nous qui est astronomique et qu'ils vont conserver de toute façon.
Pierre, elles valent quoi ces voitures chinoises?
Bah elles sont bien, c'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'en fait si vous parliez de BYD, BYD c'est un super produit. Quand vous regardez aussi, moi ça me fait rire, mais sur les voitures thermiques, je rappelle quand même que les deux constructeurs les plus fiables du marché, c'est Honda et Toyota. Donc il faut quand même se rappeler que en termes de qualité produit, on peut rivaliser en Europe, en France, avec avec les Asiatiques, notamment les Japonais, sur du thermique, on est incapable de rivaliser sur au même coup sur l'électrique. Donc fondamentalement, je vois pas comment on peut aujourd'hui politiquement continuer à pousser un matraquage taxal par la fiscalité d'un produit qui de toute façon est moins cher à produire en Asie et avec une qualité qui est somme toute supérieure ou équivalente.
Alors, on est avec Pierre qui nous appelle d'Andancette, dans la Drôme, et qui est concessionnaire automobile. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour.
Alors, c'est intéressant d'avoir votre point de vue en tant que concessionnaire automobile. On peut se dire que ça vous fait des ventes en moins, ça, si jamais les voitures chinoises sont plus taxées?
Oui, alors pour établir déjà une vérité, la voiture la moins chère aujourd'hui, ça va être la nouvelle IC3 qui est en train de sortir, à 23 300 € avec un bonus de 4 000 € pour les bons souvenirs de notre ami Pierre qui vient juste de passer.
Donc c'est une Citroën.
D'accord, qui est fabriquée en Europe, elle.
D'accord, et c'est donc, une Citroën donc.
Oui, il faut établir une taxe sur l'automobile pour les Chinois, parce que les Chinois nous traitent de d'avoir un comportement purement protectionniste, mais il faut quand même se rappeler que pendant des années, ils ont privilégié leur marché auto, et quand on voulait s'installer, ils avaient des obligations de co-entreprise avec des taxes sur l'importation. Le Citroën, quand on est allé s'installer en Chine, il fallait se marier avec une marque chinoise, etc., etc., donc on était quand même ficelés. Donc, et puis on a une concurrence déloyale. Il faut savoir que certaines marques chinoises sont vendues par des start-up, si vous voulez, qui arrivent à perdre de l'argent sur cette vente, sur certaines ventes de voitures.
D'accord.
Et qui sont compensées par l'État chinois. C'est pour ça que moi je voulais taxer, parce qu'il faut déjà sortir les dents. Et à côté de ça, est-ce que nous en avons les moyens à travers l'Europe? Aujourd'hui, ceux qui vont souffrir tout ça, c'est l'Allemagne avec les marques comme Audi, Mercedes, BMW qui font 40% de leurs ventes pratiquement en Chine. aujourd'hui, nous, les marques françaises et espagnoles, si vous voulez,
ont un marché
mondial qui est relativement faible. Aujourd'hui, je dirais que, oui, sur le principe, attention, il faut être prudent, parce qu'on aura notre vin qui sera taxé, on aura le cognac,
etc.
Mais il faut quand même sortir les dents. Les Chinois n'ont pas le monopole chez nous, et pour faire voir qu'on existe. Les Américains, eux, ils vont quadrupler les taxes douanières. Mais ils arrivent à avoir une autonomie.
Ouais, enfin, c'est un pays un peu plus fort que nous, aujourd'hui.
Baissons pas la culotte. Aujourd'hui, il faut s'en donner des moyens. On est quand même l'Europe, mais on fait du faux semblant. On veut toujours tout faire. Il faut 10 ans pour s'installer. Aujourd'hui, les Chinois fabriquent une voiture beaucoup plus rapidement que nous. Ils ont une main d'œuvre qui est beaucoup moins chère.
À nous de nous aligner, vous voyez ce que je veux dire. En tant que consommatrice, Pierre, moi ça m'embête si j'ai n'importe quoi, 9000 euros pour m'acheter une voiture électrique, que j'ai trouvé ma BYD à 9000 euros et que tout d'un coup on me dit bah non, ce sera pas 9000, ce sera 14 parce qu'on a décidé de taxer. Bah moi, consommatrice, je vais pas être très contente. Et à un moment, faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut que tout le monde roule en électrique, et vous devez bien l'avoir dans votre concession, Pierre, des gens qui vous disent ah, elle est super cette voiture, ah bah non, j'ai pas les moyens. Là, il y avait quand même les moyens aussi de pouvoir contenter un certain public.
J'ai pas de souci avec ça, mais aujourd'hui, ce que je réclame, c'est que l'Europe, les constructeurs français, commencent à fabriquer des voitures un peu plus abordables, avec une certaine qualité et une image un peu plus sympa, comme le fabrique BYD. BYD a aussi cette force, ils fabriquent pratiquement 65% de sa voiture est fabriquée par eux-mêmes. Donc vous vous rendez compte des coûts, tout ça. C'est, voilà. Il faut savoir qu'également, la taxe qui est prévue est provisoire. Elle a été mise en place.
Oui, attendez Pierre. La taxe n'est jamais provisoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle commence au départ, elle est provisoire, et je peux vous assurer qu'à la fin, elle est pérenne. On n'a jamais vu les taxes enlevées.
Elle est présentée au 4 juillet. Elle sera perçue que si en novembre, on a les droits définitifs qui sont institués là-dessus. Alors attention, l'Allemagne est en train de pousser fortement. Oui. La Suède est en train de pousser fortement. Voilà. Parce qu'ils sont maqués avec les Chinois, avec Volvo. Donc tout le monde se fait un peu du souci. Il n'y a que la France et l'Espagne qui ressortent un peu du lot dans tout ça.
D'accord.
Rien n'est acté, encore une fois. Et j'estime qu'il faut se mettre autour d'une table et discuter entre les Chinois et les Européens. Mais évidemment, il faut quand même sortir les dents et leur faire voir qu'on existe.
Et très bien.
De l'avance surtout sur l'éolienne.
Pierre, il est à fond.
C'est
très intéressant. Merci Pierre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et merci aussi à notre invité, Pierre Chasseret. On va voir si les deux Pierres ont réussi à convaincre nos auditeurs et nos téléspectateurs surtaxer les véhicules électriques chinois. Bonne ou mauvaise idée, Rémi?
C'est une bonne idée pour 60% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Bon, c'est à peu près ce qui ressortait sur le plateau. On parle conso. Juste après le coq.
Ça n'arrive. L'Euro 2024 de foot débute dans quelques heures maintenant, et chaque jour, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. Plus que ça encore, on vous propose de vivre l'expérience RMC. Le voyage à Leipzig, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le choc entre la France et les Pays-Bas. Ce sera le 21 juin. Là, vous aurez deux places pour assister au match. L'alerte, elle vient de retentir. Vous avez donc 5 minutes maintenant pour vous inscrire en envoyant euro par SMS au 732-16, euro par SMS au 732-16.
Allez, dans un instant, RMC Conso, on parlera de pénurie de produits dans les rayons des supermarchés. On va vous dire ce qui vous attend et pourquoi il y a ces pénuries. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h30, vous êtes sur RMC, RMC Story. On parle conso tout de suite avec Charlotte Méritant. RMC Conso, c'est maintenant.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et on va parler pénurie de produits aujourd'hui avec vous, Charlotte. Il y a des consommateurs qui se plaignent régulièrement de voir leurs produits préférés disparaître des rayons. Comment ça se fait? Et est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'ils disparaissent vraiment?
Ils disparaissent vraiment. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vous-même expérimenté sur des produits que vous aimez au quotidien qui n'étaient plus en rayon.
Les figolus ont disparu.
Bien sûr, parce que
c'est génial, non. Les figolus.
La dernière disparition en date, ce sont les marques d'hygiène Nana et Tena du groupe Essity qui ont déserté les rayons de Leclerc, selon un poste du spécialiste de consommation Olivier Dauvert sur X il y a quelques jours. Et c'est la même chose d'ailleurs depuis quelques mois, effectivement, avec les biscuits Lu chez Leclerc et Système U. Alors pourquoi cette rupture de stock? Bien, il y a plusieurs raisons possibles. Ça peut être tout simplement si le produit ou la marque ne se vend pas assez bien, s'il y a un problème de qualité, une volonté de se renouveler en changeant l'offre, ou alors, et en réalité pour les produits de marque très connus, surtout en période d'inflation, c'est essentiellement ça la raison, c'est une guéguerre entre distributeurs et industriels.
Mais c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur les prix. Ah. C'est d'ailleurs explicitement dit chez Leclerc, hein, qui écrit « Les marques Nana et Téna ne sont plus disponibles dans votre magasin suite à une augmentation significative et injustifiée des prix de la société Essity. » D'ailleurs, rappelez-vous, on a beaucoup parlé en début d'année avec la crise agricole. Tous les ans, normalement entre décembre et mars, même si cette année c'était avancé en janvier, les marques et les enseignes de la grande distribution, donc Leclerc, Carrefour, Auchan, etc., se mettent autour de la table pour discuter des prix. Et évidemment, les enseignes veulent acheter les produits des marques au prix le plus bas possible pour pouvoir ensuite appliquer des prix bas en rayon et attirer les consommateurs.
Donc, en gros, les serviettes hygiéniques Nana étaient trop chères aux yeux de Leclerc.
Oui, ou alors Nana... Oui, ou alors Nana a souhaité augmenter ses prix a posteriori en appliquant une clause de révision du prix parce que les prix ne sont pas figés quand ils sont négociés. Donc résultat, bah, soit Leclerc a décidé de ne pas racheter les produits Nana parce que l'enseigne n'est pas d'accord avec l'augmentation, soit la marque, c'est elle qui a pu aussi décider de ne plus livrer Leclerc. Et la conséquence, c'est que bah, le temps que les stocks restants de l'année dernière se soit écoulés, c'est maintenant que le consommateur s'en rend compte en rayon, il n'y a plus les produits qui sont disponibles.
Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ce genre de chantage ?
J'ai posé la question justement à Olivier Dauvert, il m'expliquait que le déréférencement abusif, bah, c'est pas légal évidemment, mais c'est très compliqué à démontrer parce que il y a la liberté commerciale qui fait que Leclerc a le droit de ne plus acheter ou de moins acheter une marque. Et donc, bah, le chantage, encore faut-il pouvoir le prouver. Et à sa connaissance, il n'y a pas de jurisprudence à ce sujet. Et de toute façon, en réalité, ni le distributeur ni l'industriel n'a intérêt à ce que cette bisbille dure trop longtemps.
Mais pourquoi ?
Parce que Nana a besoin de Leclerc pour distribuer ses produits, mais Leclerc a aussi besoin de Nana pour diversifier son offre et fidéliser ses clients.
On peut changer de serviette hygiénique. Hein.
Oui, mais il y en a qui sont très attachés à leur marque, mais bien sûr.
Moi, je ne savais pas qu'on était attachés à ce genre de produit, mais
alors,
c'est très bien.
Là, c'est l'exemple des produits hygiéniques parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais par exemple, les biscuits Lu, il y a des gens qui veulent absolument leurs biscuits Lu.
C'était les biscuits thé, c'est ça ? Les biscuits avec le packaging
toute
orange,
la marque, toute la marque.
Tous les Lu. Mais ça fait énormément de gâteaux.
Ça fait beaucoup de références, ouais. Ah. Alors forcément, là, si vous en trouvez encore, c'est sans doute parce qu'il y a des stocks qui continuent, qui datent. En plus, ce sont des produits secs, donc il n'y a pas de date de péremption trop courte. Donc finalement, il y a des stocks qui peuvent s'accumuler et donc on peut encore en trouver en rayon. Mais en tout cas, il y a un vrai litige à ce sujet. Et le truc, c'est que industriels et distributeurs sont interdépendants. Et d'ailleurs, selon Olivier Dauvert, ce qui se passe généralement, c'est qu'au bout de quelques mois quand même, bah, chacun fait un pas vers l'autre et se réconcilie pour qu'on puisse finalement continuer de vendre ces produits en rayon. Donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous constatez cela sur un de vos produits préférés, il y a de grandes chances qu'ils reviennent finalement en rayon au bout du compte.
Comme les figolus.
Comme les figolus.
Charlotte, est-ce qu'on sait les produits qui vont manquer là dans les prochaines semaines ou pas du tout ?
Alors, ça reste les produits Nana et Téna. Et City, c'est un groupe qui fait aussi Lotus, tous les produits d'hygiène. C'est un des leaders.
Ah non, Lotus, c'est un papier toilette.
Je peux pas vous dire s'il y aura une pénurie de du Just One.
Je sais pas, papier toilette.
Attends, ne touche pas à Lotus.
Je sais pas qu'on va avoir un attachement à un papier toilette.
Mais si, bien sûr que si. C'est très important.
Les Français sont très spécifiques.
Bah oui, on voit jamais de marque de papier toilette.
Non, c'est vrai. Moi, je prends la marque Franprix, elle est très bien. Parce que moi, je trouve que Lotus, c'est un petit peu trop doux.
Un peu high level, je pense.
Ouais, donc on partira sur
si, parce qu'il faut un truc, il faut quatre feuilles en un. C'est très bien.
Cinq, même cinq épaisseurs. Oui.
Et là, c'est just in one.
Moi, je sais pas confiance en ça.
Bon, en tout cas, les groupes qui ont vraiment augmenté leur prix.
N'est-ce pas ?
Ah bah oui, ça oui.
Pierre, la toilette sèche, la solution.
Vous n'avez pas laissé finir, Charlotte.
Ouais. Non, je voulais juste vous préciser qu'effectivement, les groupes qui ont vraiment augmenté leur prix en début d'année, ce sont Essity et Mondelez, donc les marques Lu, Milka, etc. Donc ce sont sur ces produits-là qu'il pourrait y avoir des pénuries, à moins que finalement le litige se résolve d'ici quelques semaines, ce qui est fort probable quand même.
Merci beaucoup, Charlotte Méritant. Tous les jours, RMC Conso, 14h30 dans Estelle Midi. Charlotte, là, vous partez en week-end et puis après, vous nous préparez quoi pour lundi ?
Lundi, on va parler du co-living. Alors, vous connaissez peut-être.
Oui, c'est les bureaux à plusieurs.
Alors, c'est pas les bureaux, c'est les logements à plusieurs. Ah. C'est de la colocation, mais pas vraiment. Ah. Vous allez voir que c'est un vrai business qui se développe énormément.
Merci beaucoup, Charlotte Méritant. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et alors, on vous a dit il y a 15 minutes que les négociations pour le Front populaire avaient échoué. Et coup de tonnerre.
Ça vient de reprendre. Et Jean-Luc Mélenchon est très optimiste. Ça va bien se passer.
Et à mon avis, après la pub, on vous dira que c'est terminé. Alors, restez bien avec nous. Après la pub, on vous dira ce qu'il en est sur ce front de gauche. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h39, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi et voici tout de suite les immanquables de Rémi Barry.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Rémi Barré, donc Pierre Rondeau, Juliette Briens et Fred Hermel. Et on va commencer, Rémi, avec la reprise du jour.
La reprise du jour, bah, c'est un peu le...
Ça s'en va et ça revient,
c'est très bien dit. Il y a des négociations, vous le savez, en ce moment, qui s'aiment depuis hier, hein, du côté du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, pour se répartir les circonscriptions à gauche pour les prochaines législatives. On avait appris tout à l'heure, il y a moins d'une heure, que les négociations étaient suspendues parce qu'il y avait bisbille entre LFI notamment et la gauche sur la répartition, et LPS sur la répartition des sièges entre autres. Là on vient d'apprendre que les négociations reprennent. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs se dit optimiste, hein. Il dit que tout se met en place, il faut faire preuve de patience, le travail est délicat mais les équipes de négociation font du bon travail, bravo à elles. Donc selon Jean-Luc Mélenchon, on pourrait peut-être parvenir à un accord, et donc un accord au sein même du Front Populaire, du nouveau Front Populaire.
J'ai peur que tout ce cinéma leur nuise, Pierre.
Non, Paul. C'était la pause déj, ils sont allés chercher des pizzas, ils sont séparés, les uns voulaient de la bouffe chinoise, d'autres de la japonaise. D'autres des pizzas. Il y a eu un conflit sur le repas de midi et au final, on s'est mis d'accord. On a pris des tacos et ils sont repartis en négociation.
Ouais, mais il y a un vrai conflit sur le roumous, tu vois, non, sur Israël.
D'accord. Oui. Oui, blague à part, oui. Il y a effectivement des questions assez compliquées à traiter, à gérer. Il y a ça, il y a Adrien Quatennens, il y a le nombre de circos. Effectivement, il y a toute une négociation à entreprendre et ça va prendre du temps. Et le temps, ils l'ont pas parce qu'il faut que les listes soient déposées avant lundi, il me semble. Donc dimanche, il faut trouver une conclusion. Je répète ce qu'on a dit il y a une heure maintenant, c'est gauche réconciliable ou non, tellement différent, non, tellement disparate.
En fait, si tu veux, le problème, c'est que si on ne le savait pas, s'ils se mettaient dans une salle, ils discutaient, personne ne sait rien, à la fin, ils nous disent, voilà, c'est OK ou c'est pas OK. Mais là, en fait, donc, toutes les 5 minutes, tu vois, ça reprend, ça s'en va. Et oui, mais t'as quand même un moment où je me dis, si t'es électeur, t'es hésitant, tu te dis, mais alors, c'est pas sérieux. Ça, quoi.
J'ai pas envie de parler à la place de tous les électeurs de gauche, mais moi, qui et ses sensibilités, je prends pas mal. J'ai plutôt le sentiment de voir que le débat est constructif.
D'accord.
Et je ne sais, je pense que, naïvement peut-être, que l'électeur de gauche, mais vraiment de gauche, hein, pas qui se cherche, ne sait pas où aller, lui, pour lui, ça ne le dérange pas, parce qu'au moins, entre gauchistes, entre guillemets, entre personnes de gauche, il y a toujours des conflits. Ah, t'es libéral,
Oui, d'accord, mais là, en fait, tu te disais, bah tiens, pour le coup, ils disent tous que l'heure est grave, donc c'était le moment de s'unir, quoi.
Ce que veut le peuple de gauche, c'est qu'il y ait union.
Oui. Sauf que. Alors, pardon. Hein, là, moi, j'ai l'impression que. Alors, ils appellent à manifester contre le RN, etc. Et donc, mais t'as l'impression que là, le plus important, c'est pas de manifester contre le RN, c'est d'avoir la bonne circonscription et de pouvoir mettre les petits copains.
C'est pareil à droite avec Ciotti qui fait sécession pour avoir des circos avec le RN. C'est la même chose. C'est la même confiture politique à droite comme à gauche.
Là, en ce moment, Ciotti, il fait un show. Il n'arrête pas de publier. il publie maintenant des images de lui sur Twitter à son bureau avec une Munich Sononen. Mais
il a un potentiel comique.
Mais bien sûr que c'est lui qui publie.
J'ai pas vu.
Donc il y a quand même un potentiel comique qui est qu'on n'avait pas vu pendant des années et que je découvre aujourd'hui.
En fait, là, il vient de poster une vidéo en fait avec une espèce de musique chevaleresque où il s'assoit sur son bureau tout seul dans son bureau au siège des LR.
Je tiens à remercier le président Emmanuel Macron de nous offrir ce moment et ce spectacle politique. Extraordinaire. Ouais, à gauche comme à droite.
En fait, ce que je veux dire, c'est que quand à droite, en fait, t'as jamais, et même s'il y avait ce genre de cirque, en fait, presque, je veux dire, tout le monde s'en fout, mais en fait, la gauche, là, t'as l'impression, en fait, que c'est un peu gênant quand on te dit notre idéal, enfin, on te parle d'idéal politique, etc., de France meilleure, et que tout d'un coup, tu les vois se battre pour une circonscription, savoir qui y va, qui y va pas. Et c'est ces petites bisbilles. Mais en fait, je trouve que c'était pas à la hauteur du.
Oui,
c'était pas à la hauteur du.
Moi, je vais être naïf,
à la hauteur de cette grande idée. Mais surtout,
mais là,
c'est que la première étape, mes amis. Après, quelle est la figure pour conduire la campagne? Parce que c'est simple, côté Rassemblement National, c'est. Si on gagne, c'est Bardella Premier ministre. Côté Renaissance, si on gagne, ce sera Gabriel Attal. Mmh. Parce que c'est lui qui conduit la campagne.
C'est pas dit, ça. Hein.
Si.
Oui, mais enfin, mais de toute façon, ce sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc c'est Emmanuel Macron. Mais à gauche, ce sera qui?
Ah ben, ils sont trois à vouloir être Premier ministre.
Ce sera Mélenchon. Ce sera Ruffin, ce sera Roussel, ce sera
Laurent Berger, comme ça.
Laurent Berger, oui, qui a été proposé.
Non, mais qui avait rien demandé.
Excuse-moi. Mais excusez-moi.
Et qui a coupé son téléphone.
Là, c'est rien.
Ça pourrait être Philippe Poutou aussi.
Poutou, c'est rien par rapport à ce qui va se passer.
L'une des responsables du Parti Socialiste, Carole Delga, a tweeté il y a quelques minutes qu'elle a dit ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre.
Ah, ça résout le problème.
Donc elle participe aux négociations.
C'est pas elle qui décide.
Non, mais attention, elle est en train de participer aux négociations qui sont en cours pour former le nouveau Front populaire. Et elle met, il y a trois grands axes, il y a une politique des idées communes, il y a la répartition des circonscriptions et... comme principe, troisième principe de base de ces négociations, elle dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre.
Mais ça peut être
Son souhait et la réalité.
Elle dit pas de Jean-Luc Mélenchon ou pas de LFI.
Pas de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre.
Parce que si c'est un LFI qui remplace Jean-Luc Mélenchon.
Ça peut être Ruffin, en fait.
Voilà. Oui, et ben ça, voilà. Donc ça pourrait être le grand héritier donc de Mélenchon. Et pour Mélenchon, je pense que c'est inacceptable d'entendre ça.
Ruffin n'est pas l'héritier désigné naturel de Mélenchon.
Oui, c'est pour ça que je dis pour Mélenchon, c'est inacceptable pour lui que Ruffin prenne cette place-là.
Bah écoutez, ça nous donnera lieu à encore beaucoup de
tractations. Mais c'est passionnant, hein.
On va passer au report du jour. Arrêtez.
Ce n'est que partie remise. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne se baignera pas dans la Seine le 23 juin prochain, comme prévu initialement. L'élu a annoncé hier qu'elle reportait le plongeon après le second tour des élections législatives et avant le début des JO. L'hôtel de ville souhaite l'organiser d'ailleurs un dimanche pour en faire un événement populaire.
Excusez-moi, ils veulent faire un événement populaire autour du plongeon d'Anne Hidalgo.
Oui.
Non mais là, mais rien ne nous sera épargné. Enfin, je veux dire, à un moment, mais c'est
très drôle.
Arrêtez.
Très drôle.
Enfin, Pierre,
c'est un moment de fête.
En tout cas, elle s'en sort bien quand même. Hein.
Mais tu imagines.
Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire, parce qu'il y a les élections, elle peut pas plonger.
Elle dit que c'est plus la priorité.
Faut regarder un peu sérieux. C'est pas le moment.
T'imagines tous les jeux de mots avec le plongeon de la gauche.
Honnêtement, elle s'en sort très bien. Elle avait déjà amorcé juste avant la dissolution. Elle avait commencé à amorcer. Alors le courant est un peu fort en ce moment. On va peut-être devoir décaler de 2-3 jours. La dissolution arrive. Elle annule le truc complètement. Elle s'en sort extrêmement bien.
Elle reporte. Elle a dit
oui, bien sûr. Elle reporte, annule.
Le 7 juillet et avant le 26.
Ouais, bon bref. Ridicule. De toute façon, on aura notre moment. Moi, je pense, et j'avais mis carte sur table, on aura notre moment quand les délégations d'athlètes diront non. Voilà.
Oui, donc on l'aura jamais le moment.
On l'aura jamais.
On l'aura jamais.
Oui, on aura notre moment où on pourra dire on avait raison.
Voilà, on avait
raison. Elle a pas réussi, ça nous a coûté 1,4 milliard.
Arrêtons de nous croire, arrêtons de croire qu'on puisse se baigner dans la Seine dans Paris. Paris, arrêtons. Quand on voit toutes les usines qu'il y a autour, quand on voit le courant, quand on voit la pollution, c'est juste. Au bout d'un moment, arrêtons, parce que, répétons-le, ils veulent faire les épreuves du triathlon pour les chaînes de télévision, pour les caméras du monde entier, dans le centre de Paris, avec départ au pont Alexandre III. Très joli pour les caméras, merveilleux, mais c'est pas possible. Assumons d'aller à 50 km de la Seine de Paris, assumons de partir très loin pour pouvoir garantir les épreuves, et c'est pas la fin du monde si on n'aura pas les images de Notre-Dame de Paris ou du pont Alexandre III. C'est juste, au bout d'un moment, arrêtons d'être prétentieux. On veut cette cérémonie d'ouverture tout le long de la Seine, on veut ces épreuves de triathlon dans une Seine abondamment polluée. Ça va, c'est vraiment pas la fin du monde.
On a mis 1,4 milliard pour dépolluer la Seine, c'est quand même dommage de ne pas s'en servir.
En plus.
Les pétitions du jour, Rémi.
Les pétitions du jour, c'est l'un des derniers combats en date de l'association Projet Animaux Zoopolis. L'interdiction de la vente des pièges à colle contre les souris et les rats. Je ne sais pas si vous connaissez ces pièges à colle. Hein. Ce sont des petites plaquettes avec de la colle très très forte et qui piègent les souris qui marchent dessus. Elles sont assez coincées. Apparemment, ça fonctionne, mais en tout cas, d'après certains, ça engendre des souffrances quand même parce que les souris mettent des heures pour mourir. Plusieurs pétitions ont été lancées à travers la France qui visent des enseignes de bricolage comme Bricorama ou Leroy Merlin. Et face à la pression, plusieurs magasins ont décidé de retirer leurs produits de leurs rayons.
Excusez-moi, la guillotine à souris, ça aussi, ça leur engendre.
Je dis juste ce que.
C'est pas une guillotine, mais vous savez, le truc qui se retourne. La tapette.
Moi, je suis plutôt tapette au village. On a des souris, bien sûr. Et donc, les tapettes, ça marche très bien.
Plutôt Franprix pour le papier toilette
et tapette à souris. Nous, à la campagne, il y en a partout. On est obligé, on est depuis toujours, on met des tapettes à souris.
Des pièges à rats,
des souris, s'il vous plaît.
Et c'est des tapettes.
Oui, c'est ça.
Alors on met un petit bout de fromage. Alors il faut faire très très attention pour le mettre parce que des fois tu mets ton doigt.
Vous mettez un appât en fait.
Comme
dans les Tex Avery.
Tu sais, il y a une sorte de petit clou. Tu fais un ressort. Tu mets un morceau de fromage. Plutôt émental, tu vois, plutôt gruyère, tu vois, comme
la marque, tout ça.
Comme dans Cendrillon.
Plutôt de marque repère. Et puis
Simplement.
C'est pas une souffrance, non? Le rat n'est pas décapité.
Oui, sauf que. Non, elle est pas
décapité. Il meurt plus vite.
Oui, non, elle est tuée sur le coup, la souris.
Oui, parce que, en fait, c'est fait. Alors je t'explique. C'est, comme le rail va, comme la souris, elle va manger le petit morceau.
Oui, bah oui.
Le levier est fait pour que ça, le casse juste derrière.
Oui,
le levier.
J'ai appelé ça une guillotinara. Alors que la colle, effectivement, il meurt pas. Il y a pas de piège derrière. Donc il reste comme ça dans sa colle.
Oui, il meurt d'inanition. Enfin, il meurt.
Mais est-ce que c'est plus efficace que le poison?
Le poison, c'est que t'as des chats, t'as tout ça, donc c'est mauvais pour les autres animaux. Non, là, moi, je vote tapette.
Mais attendez, mais si le chien ou le chat met son pied dans le piège à colle?
Non, mais il le décolle, il est suffisamment un chat ou un chien, est suffisamment fort pour décoller.
Non, mais dans la décapitation, dans la.
Enfin bon, bah, c'est rond, on continue les pièges à colle ou pas?
Moi, ce que j'ai en tête, c'est à Istanbul, ils ont la solution, c'est la ville des chats. Il y a plein de chats dans la.
Les chats errants, ouais, c'est dégoûtant.
Non, parce qu'ils sont traités. Et il y a des associations comme celle-ci qui voudraient se préoccuper de la condition animale. Et ben en Turquie, ils se préoccupent de la condition animale des chats. Ils sont castrés, ils sont vermifugés, ils sont soignés, ils sont nourris. Il y a des chats partout. Et moi qui adore les chats, c'est génial de se poser dans un café et avoir 2-3 chats venir sur toi.
Oh, quelle horreur.
Moi j'adore ça. Et ils ont moins de problèmes, me semble-t-il, de rats ou de surmulots, parce que les chats sont les ennemis. Directement des souris et des rats.
Et c'est le cycle de la nature.
Exactement.
Et bien sûr. Nous allons passer au plan du jour.
Après divers scénarios évoqués ces dernières semaines, on le sait, hein, le plan B de la cérémonie d'ouverture des JO, qui sera le 26 juillet à Paris, se précise. D'après un haut fonctionnaire cité dans Le Parisien aujourd'hui en France, le plan de repli, au cas où ça ne se ferait pas tout au long de la scène, prévoir une parade sur le pont d'Iéna entre la Tour Eiffel et le Trocadéro.
Vous y croyez, Pierre Rondeau?
Depuis le début, je vois ce plan. Depuis le début, je considère que ça devrait être localisé autour de la Tour Eiffel, pas ces 6 km tout le long de la Seine, de la BNF à Alexandre, au pont Mirabeau, pardon. Pour assurer la sécurité, la gestion des foules, pour assurer toutes les problématiques sécuritaires, oui, il faut le localiser. Alors, pas un stade. C'est fini, c'est pas possible. Ouais. Mais on localise autour du quartier de la Tour Eiffel. Ça
c'est ce
génial.
Qui était prévu. Enfin, ça serait.
Et ce sera très beau aussi.
Le plan B, si ça se confirme, ça serait donc, si ça devait se faire, entre le pont d'Iéna, il y aura un défilé de l'arrivée des athlètes, en fait, jusqu'au Trocadéro. Et là, au Trocadéro,
c'est tout
et devant la Tour Eiffel, ça serait une bulle, en fait, sécuritaire. Et tous les officiels et le spectacle aura lieu devant la Tour Eiffel, au Trocadéro.
Et les gens qui ont payé 2000 balles, là, ils font comment?
Mais ils seront là. Ils seront à la tribune VIP au niveau du Trocadéro, et qui auront payé.
Il y aura moins de gens.
D'accord, mais on ne peut pas mettre dans une bulle 6 km de long. Ouais. On ne peut pas mettre dans une bulle de sécurité 200 à 300 000 personnes. On ne peut pas anticiper le risque, ça a été précisé, des balcons qui pourraient s'effondrer, parce qu'il y a beaucoup de locations Airbnb dans les balcons plongeant dans la Seine. Et s'il y a 15, 20, 30, 40 personnes qui vont sur ces balcons, vont-ils résister? On ne peut pas l'anticiper, tout ça. C'est un risque immense. Il y aura 3 milliards de téléspectateurs. On ne peut pas prendre le risque d'avoir un accident pour cet événement, donc autant le sécuriser le plus possible. Autre Trocadéro.
Ce serait bien de délocaliser D'accord.
Ah non, moi j'essaie. Alors, s'il y a une urgence à dernière minute, bien sûr, mais moi je crois encore à cette magnifique cérémonie sur la Seine.
Attends, elle le sera.
Pour l'instant, les répétitions ont toutes été annulées parce que le débit de la Seine est trop fort.
Mais
c'est pas comme s'il restait 3 ans. Hein.
Bah oui, mais enfin, ça peut vite retomber. En 2 jours, le niveau de la Seine peut retomber.
Ou pas.
Ça sera cet été. Mais moi, j'espère voir ce spectacle-là. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. Et je fais confiance aux autorités de mon pays. Voilà.
Juliette Reyes.
Maintenant qu'on a dépensé le pognon, si vous voulez, oui, je serais contente d'avoir la super cérémonie sur la Seine, mais je suis quand même contente qu'il y ait un plan B, quoi. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Moi, mon petit vœu un peu coupable, je veux dire, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un processus qui nous permette de garder Darmanin juste le temps des JO. S'il connaît quand même son dossier, ça fait quand même plus de 2 ans qu'il travaille spécifiquement sur ça, et là, ça fait un peu. Je le dis, c'est pas vraiment rassurant de changer de ministre de l'Intérieur au moment où les JO arrivent, c'est tout.
A priori le préfet sera toujours là.
On est tiraillé entre l'envie que ça réussisse parce qu'on n'a pas envie que notre pays se tape la honte, et l'envie de la maître Hidalgo, quoi, et dire c'est nous qui avions raison.
Enfin, ça dépend comment, hein, parce que merci. Non, il faut que tout se passe bien et que ce soit ce soit sur la scène et que tout.
Oui, mais on a tous eu des mauvaises pensées, Estelle.
Non, franchement, non. Moi, j'ai envie que ça se passe bien, que ce soit un super spectacle et que.
Ah, et que vous n'avez fait que critiquer.
Et que ça réconcilie tout le monde. Ah, mais moi, j'étais.
Depuis des mois, vous.
Ah, mais moi, j'étais. Non, mais à la base, je suis comme Pierre. Moi, ça fait 3 ans que je dis que je trouve que c'est une hérésie. Mais maintenant qu'on y est, il faut faire ça bien, quoi.
Je suis d'accord.
Voilà, ça, c'est en tout cas, c'est mon point de vue que je partage avec Pierre. Allez, tout de suite, le Super Moscato Show.